le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International, et aujourd'hui je vais vous parler du conflit israélo-palestinien. Plus d'un mois après que la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de tout faire pour protéger les Palestiniens et les Palestiniennes de la bande de Gaza contre le risque de génocide, Israël continue de limiter l'aide humanitaire, alors que la population civile au bord de la famine s'apprête à subir une offensive terrestre de l'armée israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Nous continuons donc de demander un cessez-le-feu immédiat et durable de toutes les parties au conflit et un embargo total sur les armes à destination d'Israël. Parmi les 6 mesures observatoires ordonnées par la Cour internationale de justice le 26 janvier dernier, Israël avait l'obligation de permettre la fourniture d'une aide humanitaire suffisante dans la bande de Gaza pour soulager la population gazaoui. Les autorités avaient aussi un mois pour rendre compte de l'ensemble des mesures prises pour exécuter cette ordonnance. Mais au cours de cette période, Israël a continué d'ignorer son obligation, en tant que puissance occupante, de répondre aux besoins fondamentaux de la population palestinienne à Gaza. Israël n'a pas levé les restrictions d'entrée des produits vitaux, ni ouvert de nouveaux points d'accès et de passage pour l'aide humanitaire, ni mis en place un système efficace de protection des humanitaires contre les attaques. La situation s'est même détériorée et est devenue encore plus précaire depuis la décision de la juridiction onusienne. À maintes reprises, Israël s'est abstenu de prendre les mesures minimales que les organisations humanitaires réclament pour alléger les souffrances des civils. Israël a favorisé une très grave crise humanitaire et fait preuve d'une froide indifférence à l'égard du sort de la population de Gaza en créant des conditions qui, selon la Cour internationale de justice, l'exposent à un risque imminent de génocide. Israël a totalement échoué à répondre aux besoins élémentaires des Gazaouis, bloque et entrave le passage d'une aide suffisante vers la bande de Gaza, en particulier vers le nord, quasiment inaccessible, démontrant ainsi qu'il ne respecte pas la décision de la Cour internationale de justice et son obligation de prévenir le génocide. Les approvisionnements parvenus dans la bande de Gaza, soumise à un blocus total, terrestre, maritime et aérien, est illégal, et depuis 16 ans, ça a été une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux besoins de la population. Mais au cours des 3 semaines qui ont suivi la décision de la Cour internationale de justice, le nombre de camions entrant à Gaza a diminué d'environ un tiers, passant d'une moyenne de 146 par jour au cours des 3 semaines précédentes à une moyenne de 105 par jour uniquement. Avant le 7 octobre, environ 500 camions en moyenne entraient dans Gaza chaque jour, acheminant de l'aide et des marchandises, notamment de la nourriture, de l'eau, du fourrage destiné au bétail, des fournitures médicales et du carburant. Les seuls points de passage autorisés à ouvrir l'ont été pendant moins longtemps, illustrant le non-respect par Israël de l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Les travailleurs et les travailleuses humanitaires ont signalé de multiples difficultés et affirmé qu'Israël refusait de prendre des mesures effectives pour améliorer la situation. L'Afrique du Sud, qui est à l'origine de la requête soumise devant la Cour internationale de justice accusant Israël de violer la Convention sur le crime de génocide, a fait valoir que le refus délibéré d'Israël d'accorder une aide humanitaire aux Palestiniens et aux Palestiniennes pouvait constituer l'un des actes prohibés par cette Convention en, je cite, « soumettant intentionnellement le groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle », ce qui est la définition du génocide. Le 19 février, les organismes humanitaires ont signalé que la malnutrition aiguë augmentait à Gaza, menaçant ainsi la vie des enfants. Avec 15,6% d'enfants de moins de 2 ans souffrant de malnutrition aiguë dans le nord de Gaza et 5% d'enfants de moins de 2 ans à Rafah, le déclin de l'INTA nutritionnel de la population en l'espace de seulement 3 mois est sans précédent au niveau mondial. Nous avons le témoignage d'Amza, un habitant du nord de Gaza dont la femme Kaftar a donné naissance à leur 4e enfant le 17 février, qui nous explique que sa famille de 6 personnes parvient à peine à assurer un demi-repas par jour en raison des graves pénuries de nourriture et d'eau. Lorsque les réserves de farine et de maïs ont été épuisées, ils ont dû moudre l'orge et des aliments pour les animaux pour faire du pain. Sa femme a accouché à l'hôpital Kamal Advan de Beit Laïa, qui ne fonctionne déjà plus. Elle n'a pas eu de lait maternel après l'accouchement et elle a dû se battre pour nourrir son nouveau-né. La menace imminente d'une offensive terrestre de grande envergure sur Rafah, où plus de 1,2 million de civils sont actuellement réfugiés, ne ferait qu'aggraver la situation humanitaire. Actuellement, les denrées qui parviennent à Gaza transitent par deux points de passage à la frontière égyptienne, celui de Rafah, qui est vraiment très important pour l'aide humanitaire, et celui de Karem Abou Salem à la frontière avec l'Égypte. Une opération terrestre autour de ces deux frontières, seul point d'entrée des camions dans le sud, ça risquerait en fait de bloquer l'approvisionnement totalement et de détruire les derniers vestiges de l'aide. Une dizaine de travailleurs de 5 agences ou organisations humanitaires ont décrit à Amnesty International les conditions effroyables qui règnent à Gaza, ainsi que les restrictions d'accès sévères. Tous et toutes font le même constat, leur capacité à acheminer l'aide à l'intérieur et autour de Gaza est restée la même ou alors pire, s'est aggravée depuis l'ordonnance de la Cour internationale de justice. La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée en décembre 2023, exigeait pourtant que les parties autorisent et facilitent l'utilisation de tous les itinéraires possibles vers et dans l'ensemble de la bande de Gaza, y compris les points de passage frontaliers. Et ce, afin de garantir que l'aide vitale parvienne aux civils par les voies les plus directes. Là encore, malgré cette résolution, Israël a refusé d'ouvrir d'autres points de passage. Ces travailleurs humanitaires soulignent également qu'Israël n'a pas ouvert tous les points d'accès et de passage disponibles pour leur permettre de transférer l'aide plus rapidement et à plus grande échelle vers les zones dans le besoin ou s'assurer que les opérations humanitaires ne soient pas la cible d'attaques militaires. Fatiha, qui travaille dans le domaine de la santé mentale, raconte, je cite, « Nous n'arrivons pas à nous procurer la nourriture de base. Il n'y a rien et le peu qui reste est hors de prix. J'en suis arrivée à souhaiter la mort de ma propre mère atteinte de démence plutôt que de la voir souffrir en pensant que nous la négligeons. » L'accessibilité de Gaza est aussi entravée par des manifestants et des manifestantes israéliennes qui demandent au gouvernement d'interdire toute aide tant que les otages n'auront pas été libérés. Cette situation a conduit au blocage à plusieurs reprises du poste aux frontières Karem Abou Salem à l'extrême sud-est de la bande de Gaza, le forçant à fermer à plusieurs reprises, parfois pendant plusieurs jours. Dans le nord de la bande, la situation est particulièrement grave. Entre le 1er janvier et le 12 février, l'OCHA a indiqué qu'Israël avait refusé l'autorisation à plus de la moitié des demandes d'accès au nord formulées par les humanitaires. Le 6 février, l'OCHA a indiqué qu'Israël n'avait accepté aucune des 22 demandes de l'ONU d'ouverture anticipée des points de contrôle, y compris pour accéder aux zones situées au nord de Wadi Gaza. D'après un travailleur humanitaire que nous avons interrogé, je cite, « Il n'y a pratiquement pas d'accès au nord. Le cessez-le-feu de novembre a permis d'acheminer de nombreux camions vers le nord. À part cela, nous n'avons pas pu envoyer d'autres camions vers le nord. En 2024, c'est encore pire. Certaines personnes sont déjà affamées. » D'un côté, les organisations humanitaires continuent de décrire des refus et des restrictions fréquentes, imprévisibles et arbitraires à l'acheminement de l'aide humanitaire, et de l'autre, les autorités israéliennes accusent les organisations humanitaires d'être responsables des lacunes dans l'acheminement de l'aide, arguant qu'elles sont incapables d'en expédier et d'en distribuer davantage, ou pointant les pillages à Gaza. Les humanitaires dépeignent une toute autre réalité et exposent une série de moyens par lesquels les autorités entravent leur travail. Israël refuse régulièrement l'entrée de produits essentiels en quantité suffisante. Israël a refusé à plusieurs reprises l'ouverture des points de contrôle plus tôt. Et les travailleurs humanitaires et les bureaux d'aide ont fait l'objet d'attaques récurrentes alors qu'Israël doit veiller à la sécurité de base pour les convois d'aide. En plus des denrées alimentaires de base, Gaza a aussi besoin de carburant pour purifier l'eau, transformer les aliments et faire fonctionner les équipements médicaux. D'après Eba Morayev, qui est la directrice régionale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty, nul ne devrait être contraint de subir les conditions inhumaines auxquelles les Gazaouis sont soumis. Depuis le 11 octobre, la bande de Gaza est soumise à une coupure générale d'électricité, Israël ayant coupé l'approvisionnement. De début octobre au 18 novembre, Israël a totalement bloqué l'importation de carburant. Aujourd'hui autorisé, les quantités restent quand même très insuffisantes. Fin février, les autorités israéliennes ont régulièrement rejeté les demandes humanitaires visant à faire entrer d'autres sources d'énergie telles que des panneaux solaires, des générateurs et des batteries. Le 20 février dernier, les États-Unis ont pour la troisième fois opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies exigeant un cessez-le-feu immédiat, donnant ainsi le feu vert à de nouveaux homicides et à de nouvelles souffrances massives pour les Palestiniens et les Palestiniennes. Le soutien de ces États aux actions d'Israël, y compris à son non-respect de la décision de la Cour internationale de justice, est indéfendable et pourrait constituer une violation de leur obligation de prévenir le génocide. Les pays qui exercent une influence sur les gouvernements israéliens, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et d'autres alliés, ne doivent pas rester les bras croisés alors que les civils palestiniens et palestiniennes meurent de morts inévitables dues aux bombardements, au manque de nourriture et à manque d'eau, à la propagation de maladies et aussi et surtout à l'absence de soins de santé. Les demandes d'Amnesty International sont donc claires, un cessez-le-feu immédiat et durable sur la bande de Gaza de toutes les parties au conflit, un embargo sur les armes à l'encontre d'Israël et des groupes armés palestiniens. Israël et tous les États doivent se conformer à l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Israël doit lever le blocus illégal et inhumain sur la bande de Gaza. Israël doit également autoriser l'acheminement sans entrave à l'aide humanitaire. On demande également que l'UNRWA reçoive des fonds suffisants pour poursuivre ses activités, après qu'un certain nombre d'États ont suspendu leur financement. Et enfin, nous exhortons le Hamas et les autres groupes armés palestiniens à libérer tous les otages encore captifs, qu'ils soient civils ou militaires. La situation est donc très grave à Gaza. Je vous invite à aller sur notre site amnestyinternational.fr pour vous renseigner un peu plus sur le sujet et éventuellement signer les pétitions qui sont en rapport. Et avant de se quitter, on va quand même se quitter sur une bonne nouvelle pour les droits humains. En Grèce, puisque la Grèce a approuvé jeudi 15 février 2024 le mariage et l'adoption d'enfants par les couples de même sexe, un jalon important dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie dans un pays où l'influence de l'Église orthodoxe s'était farouchement opposée à cette avancée majeure pour les droits humains. Le projet de loi autorisait le mariage civil entre couples de même sexe. De même, les parents non biologiques vivant dans un mariage homosexuel vont pouvoir adopter l'enfant biologique de leur conjoint ou de leur conjointe. La loi étend également l'interdiction des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles aux biens et aux services, aux prestations sociales et aux avantages fiscaux. En outre, la loi reconnaît les mariages célébrés à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi et facilite la reconnaissance de l'état civil des enfants nés à l'étranger. La loi a donc été adoptée à la majorité à l'issue d'un débat intense au Parlement et au-delà, dans un contexte de discours public homophobe et transphobe. Sur les 254 députés qui ont exprimé leur vote, 175 ont voté en faveur du projet de loi. Le pays méditerranéen devient donc le 21e pays d'Europe à adopter le mariage homosexuel, le 37e pays dans le monde, le 17e dans l'Union européenne et le premier pays chrétien orthodoxe à légaliser l'adoption pour les parents de même sexe. Pour Despina Paraskeva Veloudogiani, coordinatrice des campagnes d'Amnesty International Grèce, je cite « C'est une victoire durement gagnée pour les personnes qui ont mené cette bataille. Elle accorde aux couples de même sexe et à leurs enfants la visibilité et les droits dont ils étaient privés depuis longtemps. » Cependant, bien que la loi apporte des changements majeurs, elle ne permet pas une égalité totale pour les parents non biologiques et ne reconnaît pas les identités au-delà de la conception binaire du genre, hommes et femmes. Par exemple, la loi ne donne pas accès aux techniques de PMA, procréation médicalement assistée, et de la GPA, gestation pour autrui, pour les couples de même sexe, les hommes célibataires, les personnes transgenres et intersexuelles. La loi ne permet pas non plus aux parents trans de changer leur nom et leur genre sur l'acte de naissance de leurs enfants. Les autorités grecques doivent prendre des mesures afin d'assurer la mise en œuvre rapide et effective de la nouvelle loi, mais aussi adopter d'autres changements législatifs qui permettront de garantir la pleine égalité pour les personnes et les familles LGBTI+. L'incapacité des autorités à écouter les appels répétés des organisations LGBTI+, perpétue de multiples formes de discrimination à l'encontre de ces personnes et montre que, même si la lutte avance, elle est loin d'être terminée. Donc, si vous voulez à votre tour faire avancer les droits des personnes LGBTI+, je vous encourage à aller sur notre site amnestyinternational.fr pour vous renseigner et éventuellement signer les pétitions qui sont en rapport. Je vous souhaite un bon week-end sur Radio FM+ et à la semaine prochaine.